Je vais prendre un verset très, très, très peu connu dans Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que quelqu'un ne le connaît pas par cœur? Sinon, il faut commencer tout de suite. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que je voulais souligner, c'est Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Est-ce qu'il y en a qui sont ici dans le monde? Est-ce qu'on peut lever la main, ceux qui sont dans le monde ici? On fait partie du monde, hein? Dieu, si on est là ce matin, qu'on est rassemblés, c'est parce que Dieu nous a tant aimés. Il a tant aimé le monde dont nous étions. Quelque part, on était sans Dieu, sans espérance dans le monde, mais Dieu nous a tant aimés. Est-ce qu'il en reste dans le monde que Dieu aime tant et qui ne sont pas encore là? Amen. Dieu aime toujours autant le monde. Hein. Le monde ne lui rend pas, c'est vrai, mais Dieu l'aime toujours autant. Dieu l'aime magnifiquement, énormément. On pourrait lire dans Jean 17, 18. Je me suis trompé dans mon verset. C'est pas Jean 17, 18, mais dans Jean 17, Jésus dit qu'il a été dans le monde et il prie pour que le monde voit son amour dans les disciples, qu'il voit sa gloire dans les disciples. J'ai pas noté le verset, je me suis trompé, je le retrouve pas. Mais on voit que la valeur du monde aux yeux de Dieu. Dieu aime le monde. Dieu aime les nations. Romains 15, donc je reviens à mon chapitre de tout à l'heure. Romains 15, donc si on démarre au verset 9. Donc Israël, effectivement, s'est accroché à Dieu par les promesses. Les païens, c'est-à-dire les nations, c'est-à-dire le monde, s'est accroché à Dieu par sa bonté. Et c'est pour ça qu'il dit... C'est ensuite qu'il est, je vais le dire dans la version seconde, comme le Père... Ah, oh, tu l'as permis, tu peux mettre Romains 15. J'ai une version sommaire, à chaque fois, elle est plus difficile. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-juifs, de leur côté, louent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. Je veux te célébrer parmi les nations. Je veux te célébrer parmi les nations et je chanterai ta gloire. Verset 10, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Verset 11, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Que tous les peuples l'acclament. Verset 12. Un rejeton naîtra d'Isaïe. On le verra se lever pour régner sur les nations. Et les peuples païens mettront en lui leur espérance. Vous voyez ce que Paul a fait dans ce passage? Il a fait une exégèse biblique. Il a pris sa concordance. Il a cherché le mot « nation ». Il a relevé les versets. Bon, il s'est dit à un moment donné, bon, je vais peut-être pas aller trop loin. Il s'est arrêté à 4. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a relevé? Il a relevé que Dieu appelait les nations. Il aime les nations. Et quand je dis nations, je crois que le cœur de Dieu est en train de bondir. Ça me rappelle, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là à l'époque, quand il y avait encore les écoles bibliques qu'on avait à Guébvillers. À un moment donné, est-ce que quelqu'un connaît Déborah? Vous vous rappelez de Déborah Vessilier? Elle avait un appel pour les nations et le prophète qui était là donnait une parole. Et chaque fois qu'il disait nation, elle était secouée par l'esprit. Alors après, lui, bien sûr, il s'amusait. Hein, nation, 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 c'est en train de me revenir. Nation, 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 nation. Et je crois que c'est ce qui se passait dans le cœur de Dieu. Il y a quelque chose dans le cœur de Dieu qui est en train de dire nation, 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 nation. Et je pense que Dieu veut le faire résonner dans nos propres cœurs. Il est en train de dire à nos cœurs et de faire résonner dans nos cœurs le mot nation, nation. Nation. Pourquoi? Parce qu'il aime les nations. Et si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu a aimé les nations. Si Dieu n'avait pas aimé les nations, la foi n'aurait jamais été transmise de père en fils spirituel jusqu'à toi aujourd'hui. Dieu aime les nations. Et vous savez, dans Psaume 2, qu'est-ce que Dieu dit à Jésus? Qu'est-ce que le Père dit à Jésus? Rappelez cette parole. Demande-moi les nations. C'est bizarre cette parole. Demande-moi les nations et je te les donnerai en héritage. Demande-moi. Le Père dit à Jésus, s'il te plaît Jésus, je voudrais que tu me fasses une prière. On a entendu parler de la prière. Voilà une prière à faire. Dieu le Père a dit lui-même à son Fils magnifique Jésus, « Jésus, demande-moi les nations. J'aimerais que tu me demandes les nations. J'aimerais que tu aspires aux nations. J'aimerais que tu aies soif pour les nations. J'aimerais que tu commences, que tu aies aussi mon cœur pour les nations. Demande-moi, parce que je rêve que d'une seule chose, c'est de te les donner. Je rêve de te donner les nations. » Est-ce qu'on est prêt à faire la même prière que Jésus ? Jésus nous a enseigné à prier. On a appris qu'on pouvait reproduire les prières de Jésus. Est-ce que c'est une prière qu'on est prêt à reproduire ? Jésus, donne-moi les nations. Que j'ai ton amour pour les nations. Ton cœur brûle pour les nations. Tu dis que les nations se résurront avec ton peuple, qu'elles te célébreront, qu'elles te loueront, qu'elles t'adoreront et que tu viens régner sur les nations. Est-ce que la France fait partie des nations ? Est-ce qu'on peut dire que la France célébrera le Seigneur, que le Seigneur célèbre Dieu dans la nation de France, hein, si on reprend les mêmes passages dans Romains 15, je reprends le verset. « Je te célébrerai parmi les nations. » C'est le Seigneur qui parle. Est-ce qu'on peut dire que Jésus est en train de dire « Je te célébrerai en France et je chanterai ta gloire en France. » Amen. Amen. Est-ce que vous y croyez ? Jésus veut célébrer son Père parmi les nations. Il chantera sa gloire en France. Et verset 10, « France, réjouis-toi avec son peuple. » France, réjouis-toi avec son peuple. Verset 11, « Loue le Seigneur, toi la France. » Loue le Seigneur, toi la France. Célèbre-le, peuple de France. Verset 12, « Un rejeton est né du rameau d'Isaïe. On va voir se lever pour diriger la nation de France. » Et la nation de France mettra en lui son espérance. La France a mis dans plein de choses son espérance. Elle s'est tournée vers plein de faux dieux, vers plein de pensées, de philosophies. Mais un jour, elle mettra son espérance dans le Dieu réel, dans le Dieu vivant. Amen. Je crois que c'est ce qu'on doit savoir, c'est ce qu'on doit croire. Et j'ai toujours encore envie de vous parler, quand je parle de la France et de ce roi qui vient régner sur la France, de ce que j'avais vraiment vu. Vous rappelez le roi Richard Cœur de Lion, est-ce que vous me permettez d'en reparler ? Richard Cœur de Lion, il était attendu par sa nation. Il était attendu comme celui qui devait le sauver d'un prince méchant, qu'on a appelé d'ailleurs le prince sans terre. Vous vous rappelez ça, Jean sans terre ? Donc on peut dire que sur la nation de France, il y a un prince qui règne. Il y a un prince qui veut régner, mais c'est un prince sans terre. Il est privé de terre. Il est en train d'occuper une terre qui ne lui appartient pas. Et le roi, au cœur noble, au cœur aimant, vient pour sauver sa nation. Et dans cette terre, il y en a qui sont encore des irréductibles Gaulois, qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Ils sont cachés dans leur forêt, ils se battent comme ils peuvent. On a l'impression que c'est un combat perdu d'avance, qu'ils n'arriveront à rien. Ils sont disséminés dans les forêts, il y en a un peu dans cette forêt ici, il y a une forêt à l'est, une forêt à l'ouest. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de... C'est un corps d'armée un peu perdu, mais ils sont là. Et quand le roi vient, il marche sur la terre de France. Il a sa capuche, on ne le reconnaît pas, mais il est déjà sur la terre de France. Il est en train de visiter sa terre. Il est en train de regarder sa terre, parce qu'il l'aime. Il est en train de soutenir son dont le cœur est tout entier à lui. Il est en train de soutenir ses Robins des Bois, ses Gaulois qui résistent. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'ai dit. Je me demandais, mais pourquoi le Seigneur, tu me parles d'un roi anglais ? Et c'est là que j'ai découvert mais que c'était un roi purement français. Il vient d'Aquitaine. Il a été en Angleterre quelques mois. Il ne parlait même pas l'anglais. Donc, on nous a transmis une grande légende, mais la légende, elle parle quand même. Mais c'est un roi français. Il s'est battu en France. Voilà. Donc, je crois que c'est Richard Cœur de Lion veut nous parler d'un roi qui vient. Et un jour, ce roi va relever sa capuche, il va montrer qui il est, sa royauté, les insignes de sa royauté, et on va le reconnaître. Et la question que je pose, est-ce que ce jour-là, il vient pour sauver l'Église ? Est-ce que le roi vient pour sauver l'Église ? Pardon ? Elle est déjà sauvée, parfaitement. Est-ce qu'il vient pour glorifier l'Église ? elle est déjà glorifiée. Est-ce qu'il vient pour sanctifier l'Église ? Elle est déjà sanctifiée. Non, le roi vient pour sauver la nation. Le roi vient pour sanctifier la nation. Et le roi vient pour glorifier la nation. Et il veut travailler avec son Église qu'il aime et qu'il chérit. Cette Église qui a appris à le connaître dans le secret, qui ne le voyait pas, mais qui l'aimait déjà, qui croyait en sa bonté, qui croyait en sa royauté. 1 Corinthiens 1, s'il suffit de tourner un tout petit peu la page, dans 1 Corinthiens 1, 4 à 9, « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu, à votre sujet. » Juste en soit dit en passant, c'est un bon exercice qu'on apprenne à exprimer notre reconnaissance à Dieu. Paul, il vivait des choses pas faciles. Il avait des combats, mais il exprimait sa reconnaissance à Dieu. Pour la grâce qu'il vous a apportée en Jésus. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as apportée en Jésus. Vous avez été comblés en lui dans tous les domaines, en particulier celui de la parole, celui de la connaissance. Plus loin, vous avez reçu tous les dons. Il ne vous manque aucun don de la grâce. Amen. Quelque chose, c'est quelque part, on pourrait dire que on a un petit peu ça, même si on sait très bien qu'on a encore besoin de beaucoup plus. Dans l'attente, qu'est-ce qui manque à la fin ? Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes dans l'attente ? Est-ce que nous sommes dans cette attente ? Cette attente, Paul, il dit, mais il n'y a rien de plus normal et de plus basique, et mais aussi, je ne comprendrais absolument pas si ce n'était pas là, que vous soyez dans l'attente de la manifestation de votre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez les dons, vous avez la parole, vous avez de la connaissance, il y a la prophétie, il y a toutes ces choses, mais à la base, vous êtes dans une attente. Nous devons être dans l'attente du roi. Nous devons être comme Robin des Bois. Nous devons avoir la même attente. On fait plein de choses, mais une seule chose, mais une chose compte réellement, c'est que le roi vient dans sa nation. Et je crois qu'il ne vient pas seulement pour le jour où il va régner définitivement, quand il va prendre la terre à son... Il va venir régner. Il vient déjà maintenant pour sauver la nation dans ce temps-ci, pour que la nation de France devienne témoin. Et c'est quelque chose qui doit être dans nos cœurs, qui doit brûler. Pourquoi je disais par rapport à l'Église ? Parce que le but, l'Église n'est pas le but. Quand on se rassemble, ce n'est pas le but de notre foi. Ça fait partie simplement, ça l'accompagne, c'est une chose que Dieu nous donne de pouvoir nous rassembler, nous réunir. Mais le but de Dieu, c'est ce qui se passe dehors. On a du mal, moi-même le premier, j'ai du mal. Mais Dieu ne cherche pas en premier nous, même pas les ministères, etc. Ce que Dieu veut, c'est notre nation. Et parmi nous, il y en a qui travaillent dans des emplois, ce qu'on appelle séculiers, mais vous êtes des vrais ministères. Vous êtes ceux que Dieu utilise pour préparer la nation. Vous vous rappelez que Jean-Baptiste, il est venu avant Jésus. Il devait préparer un peuple bien disposé. C'était l'onction d'Élie qui travaillait en Jean-Baptiste. Et Dieu dit que dans les derniers temps, l'onction d'Élie sera de nouveau là. L'onction d'Élie, elle prépare des cœurs bien disposés. Et je vais vous dire, tous ceux qui travaillaient là où vous êtes des ouvriers de Dieu et vous êtes dans le champ de Dieu. Vous êtes en train de travailler à l'œuvre de Dieu. Vous êtes des ministères là où Dieu vous a placés. Et vous êtes loin de l'Esprit pour annoncer par vos actes, par vos caractères, par votre nature, par votre foi, par votre espérance, par votre intercession. Vous êtes des ouvriers du royaume dans les champs que Dieu vous a donnés. C'est votre champ d'action et vous êtes loin pour ça. Et quand on a eu les temps de louange avant Nouvel An, il me semblait voir vraiment un débarquement. Vous connaissez le débarquement sur la terre de France. Je voyais des bateaux avec des trappes, les grandes trappes qui s'ouvraient pour libérer les soldats qui arrivaient. Je vois ces trappes qui s'ouvrent et des soldats qui viennent. Qu'est-ce que c'est que ces soldats ? C'est ce que j'appelle simplement l'onction apostolique. C'est le fait de dire que la nation de France est envahie en ce moment par l'onction de Dieu pour sauver la nation. Et ce sont tout le peuple de Dieu, qui soit français, soit de ceux qui viennent de l'extérieur, nos amis américains, etc. C'est une onction apostolique qui vient pour toucher la nation en profondeur, pour agir dans tous les rouages de la nation, que ce soit en politique, que ce soit en économie, que ce soit parmi les fonctionnaires, où que ce soit, quel que soit le champ d'action où Dieu t'envoie, où Dieu te place, tu es là avec l'onction de Dieu pour amener, pour préparer les cœurs à la venue du roi. Parce que le roi vient sur notre nation et la France va louer le Seigneur. Elle le célébrera, elle sera glorifiée, elle l'aimera. Le Seigneur chantera la gloire de Dieu au milieu de la nation de France. Et nous sommes appelés à la préparer. C'est notre travail. Et vous savez, c'est peut-être difficile. Et Luc, il parlait de la prière. Et évidemment, la prière, c'est le premier acte. Et quand il disait, vous rappelez quand Luc a parlé de la prière, des prières qui montent, et à un moment, elles redescendent sur la terre, comme en feu. Vous vous rappelez de ce qu'il a dit ? Est-ce que vous connaissez un passage biblique qui parle de ça ? Est-ce que c'est biblique ce que Luc a dit ? C'est où ? Bien, merci, David. T'es trop fort. Apocalypse 8. Un ange vint, verset 3. Un ange vint et se plaça sur l'autel. Il portait un encensoir d'or, ça veut dire une coupe, quelque chose comme ça. On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or devant le trône, avec les prières des saints, avec les prières de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui ont été sanctifiés. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec les prières des saints. Verset 5, l'ange prit l'encensoir, le remplit de braises ardentes prises sur l'autel et le lança sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Et vous vous rendez compte que dans les prières des saints qui montent vers Dieu, il y a vos prières. Il y a ta prière. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu cries à Dieu, chaque fois que tu fais un soupir vers Dieu, chaque fois même que tu fais un silence devant Dieu, le silence est une prière. Ça monte vers Dieu et Dieu l'enregistre, Dieu le remplit, Dieu l'utilise pour toucher la terre et accomplir une œuvre de gloire au travers de ta prière. Vous vous rappelez Josué ? Josué, Luc aussi nous les a rappelés, il était avec Moïse dans la tente d'assignation et quand Moïse repartait, qu'est-ce qu'il faisait Josué ? Il restait. Il voulait plus de la présence de Dieu. Mais Josué ne s'est pas arrêté là. Josué est parti à la guerre. Il a conquis la terre promise. Il a conquis Canaan. Il a fait la guerre. C'était un homme de guerre. C'était un homme d'adoration, un homme de prière et un homme de guerre. Il a porté les armes. Il a conquis une nation pour Dieu. Il a conquis un territoire. Nous aussi, nous sommes appelés à conquérir nos territoires. Dieu donne à chacun de nous des territoires à conquérir. Ça démarre dans la présence de Dieu, dans la prière et l'intercession, dans le silence, dans l'adoration, dans la louange. Et ensuite, ça continue sur le champ de bataille. Vous connaissez vos champs de bataille ? Est-ce que vous avez des champs de bataille ? Est-ce que vous connaissez des guerres là où vous êtes, des combats ? Eh bien, vous êtes à la place où Dieu vous veut. Les combats, c'est ce que Dieu veut. Les combats sont étonnants, on ne comprend pas, et pourtant Dieu les accepte. Parce qu'il nous a fait des guerres, il a fait de nous des guerriers. Et qu'est-ce qu'il faut pour les guerriers ? De la bagarre. Il faut de la bagarre. Sinon, à quoi bon des guerriers ? Il aurait pu faire de nous simplement des mangeurs. On aimait bien la table de Dieu, on aurait pu y rester tout le temps. Hein ? Non, la parole nous appelle. Oui, on est des adorateurs, oui, on aime la présence de Dieu, mais oui aussi, on est des guerriers. Et donc, pour les guerriers, il faut la bagarre. Et les Gaulois aussi, particulièrement, ils aiment bien la bagarre. Hein. Donc la bagarre, on ne l'aime pas, elle nous fait peur. On tremble peut-être, et des fois on s'écroule. Et pourtant, on remonte sur la chaise, comme Anna dit, on se réaccroche à la bonté de Dieu, et on repart dans nos combats, et Dieu fait de nous des vainqueurs. Et on apprend à gagner. Élie était un homme de foi, un homme de prière. Et qu'est-ce qu'il a combattu ? 400 faux prophètes. Et quand on dit des faux prophètes, ça veut dire que c'était des serviteurs de Baal. Ça veut dire que c'était on pourrait appeler ça presque des sorciers. Hein. C'était des professionnels de l'occultisme. C'était des hommes puissants en magie et en sorcellerie. 400. Et Élie tout seul les a affrontés, a affronté cette puissance d'occultisme à lui tout seul. Nous aussi, on aura des combats. Mais Dieu est avec nous, dans la prière et dans le combat. Par la foi. Alléluia. Alléluia. Simplement, je vais m'arrêter là. simplement reprendre dans Romains 15. Dans Romains 15, à un moment donné, si je vais juste simplement jusqu'au verset 23. Vous savez que Paul, il se définissait des champs d'action, des territoires, des terrains à conquérir. Il connaissait sa terre. Par exemple, il dit, mais si on lit les versets avant, mais je ne les lirai pas. Voilà, je savais que je devais aller jusqu'en Illyrie. Mon principe, c'était d'aller dans les territoires où Jésus n'avait jamais été prêché et d'annoncer l'évangile. Voilà mon objectif. Ma terre, c'était ces nations-là. Elles ne connaissaient pas Dieu, jusqu'en Illyrie. Et puis au verset 23, il dit, à présent, je n'ai plus rien qui me retient dans ces contrées. Et dans ma version, il y a marqué, je n'ai plus de champ d'action dans ce lieu. Il a épuisé son champ d'action. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est construit un nouveau champ d'action. Dieu lui a donné un nouveau champ d'action. Il a dit, j'irai jusqu'en Espagne. Et pour son champ d'action, il a construit tout un plan d'action. Voilà, je vais aller chez vous, je vais faire ça, je dois passer d'abord par Jérusalem. Il a eu tout un plan d'action. Et Dieu te donne un territoire, Dieu te donne un champ d'action. Et quelque part maintenant, il est important d'en être conscient, d'y réfléchir, de savoir pourquoi tu es là, comment Dieu te demande d'agir. Quels sont les principes ? Lui, il savait, j'ai pour principe, premièrement, de prêcher là où Christ n'a pas été prêché, et je ne veux pas, quelque part, qu'on me paye. Je gagnerai moi-même l'argent. Je serai un faiseur de tentes, je travaille. Il avait des principes, il savait quels étaient ses objectifs. Et il avait son plan d'action. Il savait où il irait. Là, j'irai là, telle ville, tel pays, etc. Eh bien, Dieu nous demande d'être constructif de cette façon-là, d'être stratégique. Les jeunes en particulier, vous avez vos choix d'études. Hein, Mathias me disait qu'il doit faire des choix cette semaine. Il y a des choix à faire. Mais Dieu est un Dieu qui aime qu'on fasse des choix. Il est un Dieu qui est avec nous dans nos choix. Il vous rend stratégique. Il vous rend intelligent. L'onction de Dieu, elle est aussi intelligente. Elle est stratégique. Il te donne un territoire, un champ d'action. Il te permettra d'avoir un plan d'action, de savoir quels sont tes objectifs, comment tu dois être formé. Dieu veut que tu sois formé au maximum. Dieu veut que tu sois formé le meilleur, etc. Vous devez devenir bon là où vous êtes. Des super travailleurs. Dieu veut efficaces et compétents. Je n'ai pas entendu ces choses quand j'étais jeune et ça m'a manqué. Je pensais que c'était juste la vie d'église qui était presque importante. Et je me suis trompé. La vie d'église a de la valeur. Elle est importante. Mais le champ d'action que tu as dans le monde est au moins tout aussi important. C'est là que Dieu est. C'est là que Dieu nous y attend. C'est là que Dieu nous envoie. Il y a deux mots qu'on dit souvent qui sont importants hein, dans la parole. Le mot « viens ». Mais Jésus ne dit pas « viens à l'église ». Il dit « viens à moi ». Viens à moi. Et moi, je te comblerai. Je répondrai à tes besoins. Je veux te soulager. Je prends tes fardeaux. Je veux te combler et te nourrir. Et ensuite, il dit, allez, allez et fais de toutes les nations des disciples. Allez et va là où tu es, fais des disciples. Fais du lieu où tu es un endroit de disciples, un lieu de disciples, un lieu où le royaume de Dieu est connu. Le Seigneur n'a pas, l'objectif de Dieu n'est pas l'église, mais c'est le royaume de Dieu. Il est venu annoncer l'évangile du royaume. Ce n'est pas l'évangile de l'église, c'est l'évangile du royaume. Il annonce les principes du royaume, nous devons les connaître. Et là où nous sommes, nous annonçons le royaume, nous proclamons le royaume, nous établissons le royaume. Parce que nous avons le caractère de Christ en nous, le caractère du royaume, la nature du royaume. Quand je me déplace, c'est le royaume qui se déplace. Et là où je vais, le royaume s'installe. Alléluia. Je propose simplement qu'on prie.